RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Il a beaucoup été question de souveraineté alimentaire lors du salon de l'agriculture qui s'est terminé il y a quelques semaines. Mais c'est quoi la souveraineté alimentaire? Alors pour faire très très simple, c'est la capacité d'un pays à garantir l'accès de sa population à une alimentation saine, sûre et suffisante, tout en préservant son patrimoine agricole et environnemental. Je fais court sur la définition car bien sûr on va en parler. Mais face au changement climatique, à la dégradation des ressources naturelles et à certains conflits, la souveraineté alimentaire est devenue un enjeu stratégique et politique incontestable pour de nombreux pays dans le monde. Et je vous le donne dans le mille, la France ne fait pas exception. Malgré son riche héritage agricole et gastronomique, la France est confrontée à des défis mis en avant d'ailleurs pendant la crise sanitaire et puis surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. Assurer la sécurité alimentaire de sa population, premier point, mais aussi préserver son indépendance économique en réduisant les importations, tout en protégeant son environnement et en soutenant ses agriculteurs. Alors, quels sont les enjeux de la souveraineté alimentaire pour la France et quelle stratégie possible pour la renforcer? Vous l'avez compris, le sujet est complexe et on n'a qu'une heure pour en parler. Alors on va essayer d'être concret avec, comme chaque matin, vos témoignages et vos réactions. Que vous évoque cette notion de souveraineté alimentaire? Et puis en termes d'alimentation, est-ce que la priorité est-elle plutôt politique, juridique ou écologique d'après vous? Craignez-vous également une pénurie alimentaire? Vous témoignez au 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Vous pouvez également réagir par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis, une émission réalisée ce matin avec le soutien du CCFD Terre Solidaire, une ONG qui agit contre toutes les formes d'injustice et notamment celle de ne pas souffrir de la faim. Et à cette occasion, on évoquera dans la seconde partie de Je pense donc j'agis l'action du CCFD sur l'île de Madagascar sous l'angle de reportage réalisé par une équipe de journalistes. Comment raconter certaines situations et comment l'ONG travaille sur place avec ses partenaires locaux. Rendez-vous à 10h. En attendant, pour parler de souveraineté alimentaire, trois invités. À 9h30, nous rejoindra Mathieu Brun, directeur scientifique de la Fondation Farm, la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Il prendra votre suite. Stéphane Linou, bonjour. Vous êtes avec nous pendant 30 minutes, expert associé au laboratoire sécurité-défense du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'intitule « Résilience alimentaire et sécurité nationale ». Et vous êtes aussi pionnier du mouvement locavore en France. Stéphane Linou, vous pourriez nous rappeler ce qu'on entend par locavore?
Alors locavore, je vous rassure, c'est un mangeur de locataires. C'est tout simplement une personne qui décide de ne se nourrir qu'avec des produits très proches de chez lui, de chez elle, je veux dire. Donc c'est ce que j'avais fait en 2008, lorsque j'avais lancé le mouvement locavore en France. Je ne m'étais nourri pendant un an qu'avec des produits sur un rayon de 150 km autour de mon assiette. Donc plus de café, de chocolat, de bananes, tout ça. Et en fait, c'était pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements, mais également pour montrer qu'il y a des pistes d'action pour augmenter l'autonomie, la souveraineté, la résilience alimentaire de nos territoires, mais également, surtout, notre sécurité collective.
Voilà, ça c'est le grand principe, les grands principes du mouvement locavore. Bonjour Pierre Duclos.
Bonjour.
Merci Bonjour. D'être avec nous pendant une heure. Vous êtes président d'AgriTrade Consulting. Vous êtes aussi analyste et spécialiste du marché international des céréales. On va le voir dans cette émission, mais autant on parle beaucoup, et notamment dans le mouvement locavore, de marché physique. Et pourtant, le marché financier, ça reste très important quand on évoque la souveraineté alimentaire. Pierre Duclos.
Oui, en effet, les marchés financiers jouent un rôle majeur dans la fixation du prix, puisque les risques liés aux aléas climatiques, aux aléas géopolitiques, entraînent de fortes variabilités des cours, ce qu'on appelle la volatilité, à l'égard de laquelle les acteurs de la filière, qu'ils soient producteurs ou industriels, doivent se protéger par les risques qu'implique la variabilité des cours. Et donc, par conséquent, ils utilisent les marchés à terme pour se couvrir, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, pour assurer les prix, pour se rassurer sur les prix. Donc on pourra peut-être évoquer cela plus précisément, oui. Mais je crois que ce qui serait intéressant vis-à-vis de la souveraineté alimentaire, c'est de faire aussi le constat sur la manière dont la France et l'Europe se positionnent par rapport à leur dépendance alimentaire vis-à-vis des flux internationaux.
Et ça, on va en discuter. Notre dernière invitée, c'est vous, Laurine Azoulay. Bonjour.
Bonjour.
Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille ce matin en studio. Vous êtes ingénieur agronome, spécialiste des systèmes alimentaires durables et vous êtes chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire au CCFD Terre Solidaire. J'aimerais vraiment qu'on prenne un temps ensemble, Laurine, pour définir ce qu'on entend par sécurité alimentaire. J'ai tenté une définition en introduction. Est-ce qu'on peut dire que c'est un concept politique qui se concrétise de plus en plus ?
Alors déjà, il y a une confusion entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Ces deux termes ne renvoient pas du tout à la même notion. La notion, pour vous donner une explication très simple du distinguo, la sécurité alimentaire, c'est mange et tais-toi. Vous allez aller au restaurant, on va vous donner un plat, on va vous mettre un plat à table, vous n'allez pas avoir le choix de la carte, vous n'allez pas avoir le choix du plat. Et alors vous allez pouvoir ressortir du restaurant avec le ventre plein, mais vous n'allez pas, vous n'avez pas avoir choisi votre repas. Et je pense qu'on a tous le souvenir d'un déjeuner à la cantine lorsqu'on était enfant où on nous a amené une assiette à table qui ne correspondait pas à ce qu'on voulait. Il y a une certaine violence en fait à imposer son alimentation à une personne. La notion de souveraineté alimentaire, c'est je choisis et je participe au processus d'élaboration des politiques agricoles et alimentaires pour décider de mon système alimentaire. Alors, sur la question, est-ce que c'est un concept politique, juridique ?
Oui.
En fait, la notion de souveraineté alimentaire, elle est définie dans le droit international. Donc, c'est le droit des peuples à une alimentation saine, culturellement appropriée, donc choisie, et produite avec des méthodes durables. Et surtout, c'est le droit des peuples à définir leur propre système agricole et alimentaire. Cette notion, elle est reconnue dans la Déclaration des Nations Unies pour le droit des paysans et des travailleurs en zone rurale. Et donc, c'est un droit qui s'applique à l'ensemble des pays membres des Nations Unies. Donc, pour vous donner un peu les éléments clés de cette notion,
oui.
Le premier élément clé, la souveraineté alimentaire, c'est une approche par les droits. Une approche qui reconnaît les droits des paysans, et en particulier leur droit à avoir accès aux ressources de production, à vivre dans des conditions dignes, etc. Et une approche aussi sur le droit à l'alimentation. Le droit pour toutes et tous d'avoir accès à une alimentation saine, culturellement appropriée et choisie. Et vraiment, j'insiste sur ce mot, c'est pas une alimentation qu'on va imposer à une population. Le deuxième aspect important de la souveraineté alimentaire, c'est la notion de démocratie.
Oui.
La souveraineté alimentaire, dans son concept même et dans sa définition, elle insiste sur le fait que les paysans et les populations participent activement à élaborer les politiques agricoles et alimentaires de leur territoire, de leur région, et sont partie prenante, car les principaux concernés, de l'élaboration de ces politiques. Et enfin, le troisième point qui me semble vraiment important à souligner, étant donné les débats actuels, un point qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que la souveraineté alimentaire des uns ne doit pas nuire à celle des autres. Et ça, c'est vraiment important parce que dans les débats actuels, on entend beaucoup ce concept de souveraineté alimentaire
oui.
avec un enjeu un peu de protection de notre
de
agriculture,
pays,
de
ouais.
nos marchés, mmh. de son pays, exactement. Mais en fait, le concept même de la souveraineté alimentaire, c'est vraiment cette notion de réaliser sa souveraineté alimentaire sans nuire à celle des autres.
Pierre Duclos, pourquoi c'est important pour un pays, alors que ce soit la France ou on va y venir à la France, mais ou un autre pays, de réfléchir vraiment à sa souveraineté alimentaire? Pourquoi ça devient important d'ailleurs?
Eh bien, la souveraineté alimentaire fait aussi référence, à mon avis, à la dépendance que l'on peut avoir vis-à-vis des fournisseurs de marchandises. Cette dépendance peut devenir effectivement un enjeu stratégique. On l'a vu par exemple sur les produits pharmaceutiques pendant la crise du Covid.
Oui.
On l'a vu pendant la guerre en Ukraine avec la dépendance par exemple aux produits pétroliers. Eh bien, le danger serait de se retrouver dans une situation identique vis-à-vis des biens alimentaires. Et c'est en cela que la question de la souveraineté alimentaire a été posée de manière beaucoup plus évidente après ces crises-là. Alors, si on regarde la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France, on pourrait se dire qu'on n'est pas très vulnérable sur le plan de la souveraineté alimentaire ou de cette sécurité alimentaire, parce que les deux enjeux sont quand même un peu liés. Eh bien, c'est vrai que si on regarde la France, en matière de céréales, on exporte net 17 millions de tonnes. Donc on a de quoi voir venir. On importe des protéines. On importe 3 millions de tonnes de protéines. Mais on importe aussi 50% de la viande que nous consommons. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement dépendant de la fonction économique. Pourquoi nous importons autant de viande? C'est parce que tout simplement, il y a un problème de compétitivité entre les producteurs nationaux et la marchandise qui est produite ailleurs. Et cette compétitivité-là met en œuvre effectivement énormément de facteurs, que ce soit les facteurs socioculturels, que ce soit les facteurs d'ordre économie d'échelle sur les exploitations agricoles, que ce soit aussi lié au coût du travail et aux règles sociales. Donc on est dans un environnement de marché qui est ouvert et qui nécessite effectivement de prendre en considération l'équilibre économique. Donc si on regarde maintenant la quantité de protéines qui nous manque en France et la quantité de viande qui nous manque en France, on peut ramener cette équation de surplus alimentaire à une portion beaucoup plus réduite. Et à ce moment-là, un calcul approximatif laisserait apparaître que nous sommes excédentaires d'à peu près 10 millions de tonnes. Donc c'est quelque chose qui nous laisse en quelque sorte à l'abri. Par contre,
Oui, je voulais juste faire réagir Laurine Azoulay qui justement voulait peut-être compléter ce que vous disiez. Dans un instant, Stéphanie Loup, je vous oublie pas, je vous donne la parole. Laurine.
Oui, je voudrais juste rebondir sur cette notion de l'état du système agricole et alimentaire en France. Bon, déjà, il y a quand même certaines filières sur lesquelles on n'est pas dans une position tout à fait satisfaisante. Par exemple, sur les fruits et légumes, on importe au moins un tiers des fruits et des légumes qu'on consomme, qui sont quand même une filière clé. Sur les protéines végétales, c'est pareil, on a un taux de dépendance aux protéines végétales, comme le soja par exemple, qui va rentrer dans l'alimentation animale, qui est encore assez important. Et même sur les filières sur lesquelles on est en production excédentaire, où on peut se dire, bah là c'est bon, tout va bien, on produit suffisamment. Je vais vous donner un exemple très concret, par exemple le blé dur. On produit en France une fois et demie nos besoins. Donc là vous allez me dire, bah écoutez, c'est très bien, on va pouvoir consommer 100% de nos besoins, et puis les productions excédentaires, les exporter. En réalité, sur le blé dur, on importe 75% du blé dur qu'on consomme en France. Vous voyez, c'est importé sous forme de semoule, sous forme de pâte, mais il y a en fait une non-adéquation entre l'offre et la demande. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de dépendance, on parle souvent de dépendance aux importations, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on a aussi une dépendance aux exportations. Lorsque vous avez une filière, je prends l'exemple de la filière porcine ou de certaines filières, par exemple, de volailles qui sont 100% dédiées à l'export, qui reposent en très majeure partie sur les exportations. Si demain, les pays ou les régions vers lesquelles vous exportez cessent d'être un marché qui vous est accessible, votre filière est en grande difficulté. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut réintroduire dans le débat. La dépendance aux exportations, c'est aussi une forme de dépendance qui fragilise nos filières.
Stéphanie Loup, sur la souveraineté alimentaire, sur la sécurité alimentaire aussi, parce que vous, c'est un sujet que vous maîtrisez. Vous avez l'occasion d'ailleurs d'aller en parler dans toute la France, mais vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience de cette dépendance d'autres pays?
Non, pas assez. Depuis un bureau à Paris, on peut dire oui, la France exporte plus que ce qu'elle importe, mais dans la réalité, c'est absolument pas le cas, parce que rien qu'à voir notre dépendance aux engrais, notre dépendance à la main d'œuvre, à la mécanisation, c'est une illusion de sécurité alimentaire que nous avons en France. Et si on regarde, si on zoome aux échelles de la réalité, c'est-à-dire dans les territoires, c'est encore pire, puisque 98% de ce qui remplit nos assiettes est importé par les camions d'autres régions et d'autres nations, et dans le même temps, 97% de ce que nous produisons dans nos territoires est envoyé par les camions dans d'autres régions ou dans d'autres nations. Donc en fait, il y a justement cette double dépendance aux importations et aux exportations, même à l'échelle de nos territoires. Et quelque part, l'hyperspécialisation de nos territoires n'est pas une bonne nouvelle. Elle a été permise grâce aux énergies magiques, aux énergies fossiles, aux énergies fossiles, donc charbon, pétrole, qui a aussi fait que le transport n'a plus rien coûté. Donc du coup, les territoires se sont hyper spécialisés. Il y a toujours eu des spécialités dans les territoires, mais il n'y a jamais eu de spécialisation. Donc en fait, avec ces transports qui ne coûtent pour l'instant encore rien, parce qu'avant le coût du transport était supérieur au coût du produit, ça s'est inversé depuis les énergies fossiles. Et bien très concrètement, à partir de ce moment-là, on a transformé, puisqu'on parle de dépendance, nos territoires en EHPAD à ciel ouvert. Dans le sens où ils se sont complètement rendus dépendants. Et contrairement aux personnes qui rentrent en EHPAD où c'est pas choisi, c'est pas de gaieté de cœur, là c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nos territoires se sont volontairement désautonomisés. Donc en fait, on est dans une illusion et nos populations ne sont pas préparées. Donc s'il y avait un problème sur justement ces perfusions, les perfusions alimentaires, sur les transports, comme je l'avais imaginé en 2008, une pandémie grippale, et là il y a 5 ans dans mon bouquin, une cyberattaque en venant d'Ukraine. Oui. Sur la chaîne logistique de l'alimentation, mais très concrètement, avec des populations non préparées et avec aucun filet de sécurité alimentaire dans les territoires, il y aurait des troubles à l'ordre public.
Je reprends juste, Stéphane Inou, ce que vous avez dit. J'aimerais vous faire réagir, Pierre Duclos, Stéphane, qui nous dit « On s'est progressivement transformé en EHPAD à ciel ouvert », c'est une métaphore, dans le sens où nos territoires ont perdu leur autonomie. Comment vous réagissez à ça? Est-ce qu'il a raison de dire ça, Stéphane?
Oui, en fait, on a peut-être eu une politique agricole commune qui a favorisé une intensification des productions dans les zones les plus productives et un abandon progressif de terres cultivables dans des zones moins favorisées. C'est un point qui, effectivement, alimente la réflexion qui vient d'être proposée quant à la désautonomisation des territoires, bien évidemment. Alors, par contre, là où se pose une question, et je rebondis à la fois sur les questions qui ont été évoquées précédemment par les autres intervenants, je crois qu'on ne peut pas non plus s'affranchir de regarder ce qui se passe chez nous, dans nos territoires, en France, sans regarder la globalité européenne. Puisqu'en effet, nous sommes dans un marché européen ouvert, nous sommes soumis à une politique agricole commune qui est définie par l'Europe. Et si on regarde la souveraineté alimentaire en Europe, elle est encore beaucoup plus aggravée que celle que nous venons d'évoquer en France. Oui. Car en effet, si d'un point de vue bilan quantitatif, nous sommes effectivement net exportateurs, comme vient de le dire l'interlocuteur précédent, nous devons mettre aussi dans l'équation tous les moyens de production, qui sont un facteur de déstabilisation, je dirais, non apparent. Par contre, si on regarde la situation européenne, l'aspect quantitatif est déjà lui-même déjà très dégradé, puisque quand on regarde effectivement l'exportation nette de céréales, on exporte du blé, 33 millions de tonnes, mais on importe 20 millions de tonnes de maïs. Et ce maïs vient effectivement, la plupart du temps, d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, ou éventuellement de la mer Noire. Par contre, là où la situation est encore plus grave, c'est ce que disait tout à l'heure Laurine, c'est en ce qui concerne les protéines végétales, puisque nous importons en Europe 20 millions de tonnes de graines de soja et de graines de colza, et nous importons 20 millions de tonnes de tourteaux de soja et de tourteaux de tournesol. Donc nous sommes là dépendants pour 46 millions de tonnes de marchandises nécessaires à la fabrication de tous nos aliments du bétail. Donc vous voyez à quel point la situation européenne est extrêmement tendue, extrêmement grave. Et si on regarde effectivement la similitude que nous pouvons avoir ou la connexion que nous avons entre le marché français et le marché européen, nous voyons alors que la situation française ne peut pas être raisonnée de manière indépendante.
Et je voulais justement qu'on vienne sur l'Europe parce que ce concept, alors cette notion de souveraineté alimentaire est revenue sur la table, notamment pour répondre à la crise alimentaire engendrée par la guerre en Ukraine il y a déjà 2 ans, les États membres à l'époque de l'Union européenne avaient donné la priorité à, je cite, l'indépendance et souveraineté alimentaire de l'Union européenne. Il faut se replacer 2 ans en arrière, Laurine Azoulay, mais ça veut dire que penser la souveraineté alimentaire en France, c'est aussi penser le modèle européen, comme l'a dit Pierre. Mais
en fait, je vais aller plus loin que ça. Penser la souveraineté alimentaire en France, c'est penser la souveraineté alimentaire à l'échelle européenne, puisqu'on dépend du marché communautaire, mais c'est aussi penser la souveraineté alimentaire à l'échelle mondiale. Il faut se rappeler que nos assiettes aujourd'hui contiennent des produits qui proviennent de partout dans le monde, qui ont été produits à l'autre bout du monde, transformés encore ailleurs, avant de revenir dans nos assiettes. Et donc, lorsqu'on parle de dépendance alimentaire, on parle de dépendance vers les pays tiers pour nos imports et nos exports. On parle aussi de dépendance au marché mondial, que ce soit le marché physique ou le marché financier, avec sa très forte volatilité. Donc une dépendance aussi à des sauts dans les prix, que ce soit l'explosion des prix ou la chute des prix d'un coup, qui va affecter tantôt les producteurs, tantôt les consommateurs. C'est aussi une dépendance à des acteurs économiques très puissants, puisqu'on a concentré aux différents maillons de la chaîne, que ce soit au niveau de la transformation, au niveau de l'agrofourniture, donc des producteurs de pesticides, d'engrais, de machines agricoles, au niveau du négoce, on a concentré les acteurs. Et aujourd'hui, on a 4, 5, 6 multinationales qui détiennent entre 60 et 90% du marché selon les maillons. C'est aussi une dépendance aux ressources non renouvelables, aux intrants fabriqués à partir d'énergies fossiles. Et en fait, on est dans un paradigme néolibéral d'une recherche de compétitivité et d'une recherche de production en grand volume au prix les plus bas. Et en fait, c'est pareil, ce narratif, il faut le déconstruire, parce que quand on parle de compétitivité et quand on parle de bas prix, en fait, on oublie que ces prix bas, ce sont une construction politique. Pourquoi les prix aujourd'hui des produits issus de l'agriculture industrielle sont bas? Parce que derrière, il y a des subventions. En particulier au niveau européen, vous avez des subventions de la politique agricole commune. Oui. Vous avez au niveau national des politiques fiscales qui vont favoriser, orienter un certain modèle plutôt productiviste plutôt qu'un autre. Et enfin, vous avez, troisième élément de la construction du prix, ce qu'on appelle les externalités négatives ou les coûts cachés, qui sont des coûts qui sont supportés la plupart du temps par la société. Donc ça peut être par exemple le coût de dépollution de l'eau contaminée aux pesticides pour qu'elle puisse être potable. Ça peut être le coût de la santé, de l'état de santé des populations, en particulier les agriculteurs qui sont en première ligne sur les empoisonnements aux pesticides. Ça peut être le coût aussi de tous les processus de contrôle, de régulation de ces substances-là. Et en fait, aujourd'hui, on est sur un modèle qui, en apparence, produit une alimentation low cost, mais qui, en réalité, est extrêmement coûteux. Pour vous citer juste un chiffre qui donne le vertige, la FAO a estimé, donc l'organe de l'ONU qui traite des questions de sécurité alimentaire et d'agriculture, a estimé le coût du système alimentaire à l'échelle mondiale à 15 000 milliards de dollars par an.
Je rappelle que ce matin, on parle de souveraineté alimentaire dans Je pense donc j'agis avec nos quatre invités, Laurine Azoulay, Pierre Duclos, Stéphane Ninou et puis Mathieu Brun qui nous rejoindra dans quelques instants. Vous avez la parole pour réagir, pour participer au 04 72 38 20 23. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion de souveraineté alimentaire, et venez réagir également à ce que disent nos invités par mail à direct@rcf.fr ou au 04 72 38 20 23. Justement, un message de Didier qui lui évoque, alors on en a parlé, la dépendance aux importations et aux exportations. Et Didier nous dit, et si on essayait le protectionnisme alimentaire? Je voulais qu'on en parle avec vous, Stéphane Ninou, parce que ça aussi, c'est souvent revenu à la suite du début de la guerre en Ukraine, le protectionnisme alimentaire.
Alors, tout d'abord, je veux te dire que je ne suis pas pour l'autarcie, hein, pas du tout. Mais entre les 2% d'autonomie alimentaire que nous avons par territoire, et le 100% que je n'évoque pas, hein, qui pourrait être caricaturé, il y a de la marge. Pour moi, la résilience alimentaire de nos territoires, c'est une question de sécurité. Et votre invité, là, tout à l'heure, là, vient de parler des externalités.
On ne vous entend pas très bien, Stéphane Ninou, il y a du bruit autour de vous.
Oui, excusez-moi, je me déplace. Donc oui, votre invité l'a parlé d'externalités négatives à l'instant. Il y a une externalité dont on ne parle jamais, ce sont ce que j'appelle les externalités de sécurité. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir des infrastructures nourricières au plus près de là où nous consommons, et bien en fait, s'il y a un problème sur les perfusions alimentaires, sur les circuits longs, mais très clairement on se tape dessus. Et ça, cette quantification du coût humain en infrastructure ou autre, de troubles à l'ordre public, ça, on n'en parle pas. Donc en fait, pour des raisons de sécurité, je serais pour, justement, qu'il y ait un filet de sécurité alimentaire territorialisé un peu partout dans les territoires, un peu comme lorsque Windows plante.
Laurine Azoulay, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, effectivement, il y a tout un volet de réflexion autour des enjeux de régulation des marchés. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup dans le débat public aujourd'hui des enjeux de régulation, en particulier des importations, qui causent une forme de concurrence déloyale sur les produits français et qui arrivent à bas coût. C'est important de rappeler qu'en fait, on peut pas uniquement penser le protectionnisme alimentaire et la protection de nos marchés français sans tenir compte de l'impact de nos systèmes agricoles et alimentaires dans les pays du Sud. Ce dont notre monde agricole, ce dont notre société, ce qu'on dénonce aujourd'hui en matière de concurrence déloyale, n'oublions pas que nous-mêmes, nous l'exerçons sous différentes formes envers les pays du Sud. Je peux vous donner deux exemples très concrets. Le premier, c'est que on entend parler aujourd'hui de la mise en place de mesures miroirs, c'est-à-dire de mesures qui vont réduire les importations.
Laurine, vos deux exemples, on va les donner juste après la petite pause qu'on doit marquer tout de suite, si ça vous dérange pas.
Ok, très bien.
On vous remercie Stéphanie Lou d'avoir participé pendant une demi-heure. Je rappelle que vous êtes expert associé au laboratoire Sécurité Défense du CNAM. Vous êtes pionnier du mouvement Locavor en France. Vous continuez de réagir au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et on parle de souveraineté alimentaire ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos invités. Pierre Duclos, je rappelle que vous êtes président d'AgriTrade Consulting et vous êtes aussi analyste et spécialiste du marché international des céréales. Nous a rejoint Mathieu Brun. Bonjour Mathieu.
Bonjour Melka.
Ravi de vous entendre à nouveau. On vous avait reçu il y a quelques années, je crois, dans Je pense donc j'agis. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation Farm, la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Et puis toujours avec Laurine Azoulay, ingénieure agronome, spécialiste des systèmes alimentaires durables et chargée de plaidoyer souveraineté alimentaire au CCF des Terres Solidaires qui nous permet de faire l'émission ce matin. Laurine, je vous ai un peu coupé la parole. Vous commenciez à évoquer vos deux exemples suite aux propos de Stéphane Linou.
Oui, tout à fait. Donc en fait, pour vous donner à voir les impacts de nos systèmes agricoles et alimentaires envers les pays du Sud, deux exemples. Le premier, en Europe, nous continuons d'exporter des pesticides qui sont interdits sur notre territoire vers les pays du Sud. Et ensuite, il y a tout un discours qui est de dire, mais on veut limiter l'importation de produits qui contiennent ces pesticides-là. Donc, n'y a-t-il pas une incohérence et même au-delà une forme d'hypocrisie à vouloir des produits chez nous à refuser des produits chez nous qu'on exporte ailleurs. Le deuxième exemple, qui est un exemple qui est cité très régulièrement, c'est nos exports de poudre de lait écrémée. Donc on produit de façon excédentaire au niveau français-européen des poudres de lait écrémées qu'on va réengraisser à partir de matières grasses végétales, donc ce qui va donner un produit un peu pas très ragoûtant. En général, on va utiliser de l'huile de palme et on va vendre ça sur les marchés des pays du Sud, notamment le marché ouest africain. Ces poudres de lait écrémées réengraissées à l'huile de palme coûtent entre 30% jusqu'à deux fois moins cher que le lait entier local sur ces marchés-là. Comment voulez-vous que les agriculteurs, les éleveurs locaux survivent à cette concurrence de prix? Donc, en fait, il y a vraiment une réflexion à avoir et je trouve qu'on vit une période vraiment très intéressante puisque parler de ces formes de concurrence déloyale qu'on vit aujourd'hui sur notre territoire en France, c'est aussi parler des formes de concurrence déloyale qu'on exerce par ailleurs. Et c'est important d'avoir une cohérence dans la façon dont on adresse ces distorsions-là en se disant, balayons aussi devant notre porte et faisons-nous aussi l'effort de réduire nos impacts délétères sur les économies rurales des pays tiers.
Mathieu Brun, pour situer un petit peu là où on en est, on a pris un temps dans la première partie pour définir ce qu'on entendait, même si on pourrait prendre des heures pour ça, mais par la souveraineté alimentaire. Là, on n'est plus sur les enjeux de la souveraineté. On a évoqué la sécurité alimentaire et puis cette nécessité de garantir l'accès à une alimentation de qualité pour tous les citoyens. Ça veut dire quoi, une alimentation de qualité? Ce sont des aliments qui respectent des normes, par exemple, Mathieu?
Ça sera des aliments qui seront alignés sur des objectifs nutritionnels. En France, on a un programme français de nutrition. Au niveau international, on a aussi des recommandations qui sont édictées chaque jour. On est dans une situation où on parle de beaucoup de famine, d'insécurité alimentaire, de manque d'accès à l'alimentation de qualité. Mais on a aussi des situations, notamment de surpoids et d'obésité, qui sont en train de croître de manière extrêmement importante. Pas que dans les pays dits du Nord, au sein de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada ou d'ailleurs, mais aussi dans des pays du Sud où on a de moins en moins accès à cette alimentation de qualité parce que c'est une alimentation qui est transformée, qui coûte moins cher aussi. On pourra parler peut-être du cracking ou d'autres éléments relatifs à cette question de la nutrition. Mais une alimentation de qualité, c'est aussi une alimentation qui respecte les modes de vie de chacun. Et donc pour les populations qui sont notamment en situation de précarité ou de vulnérabilité, parfois on n'a pas le choix d'acheter ce qu'on peut manger. On achète le moins cher et ce qui est souvent des produits qui sont trop riches, trop sucrés, trop salés ou aussi trop carnés. Je crois que vous avez parlé du sujet de la viande dans la première partie de l'émission. C'est aussi un enjeu très important.
Un message de Jean-Jacques, qui nous dit « En vous écoutant, on s'aperçoit que notre système alimentaire ne nous appartient pas. C'est une véritable usine à gaz détenue par des financiers et des politiques conduisant le bal pour leurs propres intérêts et non pour le bien commun. » Pierre Duclos, est-ce qu'on peut être aussi binaire pour parler de sécurité, de souveraineté alimentaire?
Il y a quelque chose d'intéressant dans cette réflexion, en effet, dans cette proposition, parce qu'en effet, les marchés sont tellement bousculés par l'ensemble des échanges internationaux qu'ils dépendent de situations géopolitiques parfois tendues, qui dépendent de conditions climatiques parfois effectivement très délétères sur le rendement et les productions, ce qui entraîne beaucoup de volatilité dans les prix, et ce qui fait que le marché nous échappe dans ses valeurs, dans la définition du prix, puisqu'aujourd'hui, sur la fixation du prix des marchés, les financiers interviennent par effet d'aubaine. Quand on a l'appréhension que un marché peut monter ou baisser, cela déclenche des prises de position sur ces marchés qui peuvent être de nature à accélérer les tendances. Et donc, par conséquent, c'est aussi délétère sur les facteurs de production, c'est délétère sur les facteurs de transformation, parce que la volatilité des prix, l'incertitude que représentent tous ces acteurs font que les systèmes sont fragilisés sur le plan de leur économique. Donc, sur le plan économique, ce qui veut dire que la compétitivité de nos filières est aussi mise à mal parfois par l'effet délétère de cette volatilité des prix. Alors, je me posais une question tout à l'heure à l'égard de tout ce qui a été dit sur tout ce qui est du domaine des externalités dans le coût, parce qu'en effet, la fonction de nourriture aujourd'hui est animée par la réduction du coût, c'est-à-dire fournir de la nourriture au coût le plus bas. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce coût n'est pas bien défini et ce coût n'intègre pas toutes les externalités nécessaires. On pourrait prendre l'exemple de la circulation automobile. Aujourd'hui, on introduit des taxes importantes sur les voitures qui dégagent trop de CO2. On introduit des vignettes sur les voitures qui dégagent trop de particules. Pourquoi n'y aurait-il pas, dans la construction du prix, des éléments qui seraient capables d'intégrer les facteurs négatifs de la production des produits, ce qui permettrait de remettre à parité toutes les valeurs? Et tout à l'heure, Laurine parlait de la capacité que nous avons à exporter des produits non conformes ou à exporter des matières que nous n'acceptons pas chez nous. C'est aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons vu que la crise agricole que nous avons vécue récemment était aussi animée par cette rupture de continuité dans les règles qui sont applicables entre les produits importés et les produits fabriqués sur place. Donc je crois qu'il y a là un enjeu important de remettre à parité de prix tous les éléments qui viennent intégrer la valeur d'un produit. On ne parle pas de prix, on doit parler de valeur. Et la valeur doit effectivement mettre en œuvre toutes ces externalités dans la construction de ce prix. Et à ce moment-là, je pense qu'on aurait effectivement un phénomène de régulation de marché qui se mettrait progressivement en place.
Laurine ?
Oui, je voudrais rebondir là-dessus. Je trouve que c'est vraiment intéressant cette réflexion sur la façon dont les prix sont construits. Et on a beaucoup parlé des coûts cachés. Je pense que c'est vraiment important de les remettre dans le débat, de les évoquer. Il y a aussi d'autres formes d'externalités dont on parle pas énormément, les externalités positives, notamment de notre système agricole. La question du maintien des paysages, de la santé des sols, de la restauration des écosystèmes, l'impact aussi l'impact positif possible que peuvent avoir certains modèles agricoles sur le climat. Et donc ça aussi, tout ça aussi doit rentrer dans l'équation. Pour répondre à la remarque sur les systèmes alimentaires, nos assiettes en fait qui ne nous appartiennent plus, justement le concept de souveraineté alimentaire et cette notion de démocratie alimentaire, c'est se réapproprier
de reprendre le contrôle
de nos assiettes, reprendre le contrôle. Et donc ça veut dire aussi partir des besoins des populations plutôt que de partir de la production. Et pour ça, il y a des mécanismes politiques qui peuvent accompagner tout ça, pour réorienter les productions, pour soutenir aussi la transition, que le poids de la transition agroécologique ne pèse pas uniquement sur nos producteurs, mais que ce soit un effort soutenu par la société dans son ensemble, et aussi des mécanismes de construction du prix qui soient plus justes.
J'aimerais qu'on écoute François au 04 72 38 20 23. Bonjour François.
Bonjour. Excusez-moi, ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai au moins 20 sujets dans la tête.
Bah, il va falloir en choisir qu'un seul. Hein.
J'ai au moins j'ai 50 ans de pratique. Enfin, mes parents m'ont mis dans une pratique il y a déjà 50 ans qui est absolument à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait 20 ans que j'écoute la radio. Ça fait quelques années qu'on ne peut pas ouvrir la radio sans entendre une émission dans la journée qui parle d'écologie. C'est formidable, mais ça n'avance à rien puisqu'on a tout le temps des généralités qui sont données. Tout à l'heure, on entendait les quantités qui étaient importées et exportées. Et il n'était question en fait que de soja, de maïs, de blé, etc. qui ne vont être consommés à 80% que par du bétail. Quand est-ce qu'on s'occupera de nourrir l'humain ? Mes parents ont arrêté de consommer de la viande il y a 50 ans parce qu'on leur avait fait comprendre à cette époque-là qu'il fallait, peut-être que le chiffre n'est pas exact, qu'il fallait 10 fois plus d'espace et d'énergie pour nourrir l'humain par l'intermédiaire des animaux plutôt que directement.
Eh bien, c'est bon.
Non, il y a encore 1000 sujets. Heureusement, il a été question aussi dans cette émission rapidement de notre dépendance au pétrole. Enfin, de notre dépendance à d'autres États à cause du pétrole, qui est un élément constitutif de notre agriculture qu'on a construite aujourd'hui. Pétrole qui passe dans les tracteurs et qui passe également dans les intrants qu'on s'oblige à mettre.
On en a parlé.
Autour de moi, j'ai 4 champs qui ne servent qu'à nourrir les animaux. Et si, à la place de ces céréales, on y mettait des lentilles, du riz, ça peut être pas être difficile, des lentilles, des choux, des salades, du fenouil, etc., on nourrirait 20 km à la ronde d'humains.
Merci.
Alors
François.
Que là, ça va servir à que dalle.
Merci François d'avoir pris le temps de témoigner. Bien sûr, je vous coupe la parole, c'est normal, vous pouvez pas développer vos mille idées en tête, mais c'est intéressant quand même de vous entendre. Mathieu Brun, quand on parle de souveraineté alimentaire, on parle pour qui ? Pour le bétail ou pour les humains ? C'est marrant quand François dit ça.
C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, notre système alimentaire sert en grande partie à nourrir le bétail. Pour autant, est-ce qu'il s'agit d'arrêter de manger de la viande ? C'est peut-être une pratique qu'on peut respecter, mais il ne faut pas oublier, comme Laurine le soulevait, c'est que notamment l'élevage, quand il est conduit dans les meilleurs environnements, avec des bonnes pratiques qui sont orientées notamment vers la valorisation de superficie, de surface qu'on peut pas mettre en culture, bien ça contribue aussi à stocker du carbone, à générer une activité productive, une activité économique pour des sociétés. En France, on a ces zones de montagne qui sont d'ailleurs aussi assez importantes en termes économiques. Mais pour réagir à ce que disait François, avant on mangeait ce qu'on produisait. Aujourd'hui, on achète ce qu'on mange. Donc soyons aussi vigilants et peut-être aussi pour répondre à l'autre auditeur ou à la question que vous avez eue juste avant, à ne pas penser qu'on va pouvoir seulement nous produire et manger ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'un système financier, d'un système bancaire, d'un système de transformation. L'auditeur parlait de ces chaînes de valeur qui sont peut-être laissées un peu à l'abandon. Je pense que vous avez dû parler des légumineuses. Bien, pour qu'un producteur produise des pois, des légumineuses, des protéines végétales pour qu'il produise des haricots, etc. Il a besoin de débouchés, il a besoin de filières, il a besoin de gens qui vont collecter, qui vont stocker, qui vont transporter, qui vont transformer jusqu'au consommateur final qui encore aujourd'hui fait ses courses dans un supermarché et achète ce qu'il consomme. Donc oui, il y a une forte idée hein, que notre alimentation n'est plus entre nos mains, elle est dans notre assiette. En reprendre le contrôle, maîtriser ses dépendances, ça veut dire aussi être informé, ça veut dire avoir les moyens de cette information. Aujourd'hui, la transparence sur les origines des ingrédients, par exemple, dans les produits transformés ou dans les produits qu'on consomme est assez faible. Et donc ça, c'est un enjeu pour l'information, du communication. La démocratie alimentaire dont parlait Laurine, c'est des gens qui soient formés, mais qui soient aussi informés. Et donc, on y a accès à cette connaissance, c'est très important, tout en négligeant pas la nécessité de mettre en route des filières entières, des acteurs économiques, et tout ça, il faut aussi le financer.
Pierre Duclos, vous vouliez réagir aussi.
Oui, il y a deux points importants. Hein. Tout à l'heure, l'intervenant sur la radio a mentionné les utilisations de marchandises liées à l'alimentation animale. On peut aussi faire allusion à celles utilisées pour la fabrication d'agrocarburants. Hein. Il faut savoir qu'un champ sur deux de colza produit en France est utilisé dans l'industrie de l'agrocarburant pour faire rouler des voitures incorporées dans le carburant diesel, n'est-ce pas, hein? Donc ça aussi c'est un point relativement important. L'autre point sur lequel je voudrais aussi porter l'attention, c'est le fait de dire voilà, les légumineuses pourraient être effectivement davantage développées puisque nous voyons que nous sommes déficitaires en protéines. D'un autre côté, il faut savoir aussi qu'il y a un effet rendement surface, c'est-à-dire qu'en réalité, s'il fallait cultiver un hectare de légumineuses à la place d'un hectare de blé, eh bien, on a un rendement qui est trois fois moindre. Donc, ça veut dire que pour restituer la surface nécessaire à la production de légumineuses, il faudrait diminuer la surface de blé de 3 pour 1. Et donc, par conséquent, on arrive là aussi à une équation bilancielle sur le plan de l'utilisation des surfaces qui fait appel à une autre réflexion de disponibilité des territoires. Donc, de disponibilité des territoires et aussi de contraintes pédoclimatiques qui ne sont pas non plus forcément toujours transposables d'une production à une autre. Donc ça, ce sont des éléments agronomiques dont il faut tenir compte pour évaluer la véritable capacité de substitution et de rééquilibrage. Ensuite, sur la consommation de viande, il y a effectivement un levier important parce que, comme vient de le dire monsieur tout à l'heure, on ne peut pas forcément réduire à zéro, on n'est pas obligé d'imposer une réduction à zéro, mais je pense effectivement qu'il y a là un levier d'arbitrage relativement intéressant sur lequel il faut réfléchir. Et puis l'autre point, c'est que dans les systèmes d'élevage, nous avons les élevages hors sol, les élevages extensifs, en particulier sur le bovin, et puis nous avons tous les élevages hors sol, en particulier sur le porc et la volaille. Et ce sont ces productions de viande qui reviennent le moins cher aux consommateurs. Donc là, on a aussi un problème d'ordre économique, hein, économie de l'alimentation chez les ménages.
Alors,
et puis le troisième levier, c'est le gaspillage. On a un gaspillage énorme en alimentation qui constitue aussi un levier de restitution à notre balance commerciale relativement important.
Alors, tout ce que vous venez de dire fait beaucoup réagir. Mathieu, je vous donne la parole dans un instant. Laurine, vous vouliez réagir avant. C'est vertigineux en fait, parce qu'on se rend compte à quel point quand on ouvre une boîte, on en ouvre 1000 en même temps.
Et c'est ça qui est important en fait, c'est d'adresser le système alimentaire dans toute sa complexité de façon systémique, en tenant compte des différents paramètres, parce que le risque, si on fait pas ça, c'est de résoudre un problème en créant un autre ailleurs, sur une autre dimension ou ailleurs sur la chaîne. Juste pour revenir sur la question de l'élevage, en fait, on a différents scénarios de transition agroécologique qui montrent qu'une transition à l'échelle française ou à l'échelle européenne des systèmes agricoles vers des systèmes agroécologiques plus vertueux en matière d'environnement, mais en matière aussi de bénéfices sociaux, en particulier pour nos producteurs. Donc ces scénarios, ils existent. Je vais en citer un en particulier, qui est le scénario TIFA, 10 Years for Agroecology, qui montre qu'en fait, en produisant moins mais mieux en matière d'élevage, on peut atteindre des systèmes agricoles qui soient plus vertueux. La problématique, une des problématiques majeures avec l'élevage aujourd'hui, c'est que Comme d'autres filières, en fait, on est rentré dans cette espèce de course à la compétitivité à l'échelle mondiale. On va vouloir produire des volumes très importants pour faire des économies d'échelle. Économies qui, rappelons-le, sont des économies, en fait, de surface, parce que ce modèle low cost nous coûte en réalité très cher. Hein, les coûts de la pollution, les coûts sur la santé que la société va supporter et va payer par ailleurs. Et donc, on se retrouve avec des incohérences où on va avoir des filières, par exemple, de production de volailles qui seront uniquement destinées à l'export, c'est-à-dire que c'est des poulets que les consommateurs français ne vont pas manger. Hein. C'est de la qualité qui est tellement basse, des poulets qui vont vivre quelques dizaines de jours, qui vont être élevés dans des conditions peu qualitatives et qui sont destinés à l'export, qui arrivent sur les marchés locaux dans les pays du Sud et qui en plus causent une concurrence déloyale sur ces marchés-là et concurrencent les agricultures paysannes locales.
Et ça, c'est des choses qu'il faudrait par exemple arrêter de faire ça, arrêter d'élever cette volaille.
Il faut vraiment se re-questionner sur la question de la qualité et de la valeur de notre alimentation. Est-ce qu'on veut une alimentation finalement qui nous coûte très cher et qui est peu qualitative et qui va causer des problèmes, des impacts négatifs à la fois en termes de santé, mais aussi en termes sur la dimension socio-économique dans les pays vers lesquels on exporte en l'occurrence, ou est-ce qu'on veut une alimentation qualitative qui soit synonyme de bien-être animal, qui soit synonyme de préservation, restauration des écosystèmes, qui soit surtout aussi synonyme de bien-être de nos producteurs. Voilà, il y a vraiment cette question-là à adresser. Et juste pour revenir rapidement sur la question du consommateur et la responsabilité que nous avons en tant que consommateurs dans nos choix alimentaires, vraiment, c'est important de sortir de ce paradigme du consommateur qui va voter avec son portefeuille. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 6 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, qui ne peuvent pas voter avec leur portefeuille. Et c'est absolument injuste et c'est vraiment pas possible, en fait, de demander à ces personnes-là de voter. Elles n'ont pas les moyens de le faire. Donc il y a vraiment aussi, à un moment donné, sortir de ce paradigme de la responsabilité individuelle et du mythe selon lequel c'est le consommateur, en fait, en fonction de ses achats qui orientent l'offre. En fait, il y a des politiques aussi publiques derrière qui peuvent permettre aux consommateurs de choisir une alimentation de qualité. Si demain vous posez la question à n'importe quelle personne, quel que soit son portefeuille, est-ce qu'elle préfère manger une alimentation saine, de qualité, ou est-ce qu'elle préfère manger une alimentation low cost qui va nuire à sa santé, je pense que la réponse, elle est évidente.
Et ça fait partie des stratégies. Mathieu Brun, vous vouliez réagir également?
Oui, merci Melchior. Deux points rapides. Le premier, c'était par rapport à ce que disait juste avant Pierre sur la place, notamment des légumineuses, des protéagineuses dans les surfaces. Il faut pas voir ça dans une logique de substitution, produire du blé plutôt qu'autre chose, parce qu'en fait, le modèle agricole qui visait à produire blé sur blé sur blé sur blé est complètement arrivé à essoufflement. On est au contraire dans une approche de rotation des cultures, intégrer, désolé, alors c'est un petit peu technique pour vos auditeurs, mais intégrer des pois, fèvrole, du colza, des légumineuses, des protéagineuses qui captent de l'azote entre deux cultures de blé ou d'autres ou de maïs, etc. Bien, c'est aussi un moyen agronomique de décarboner nos modes de production, de mettre moins d'intrants, moins d'engrais, de protéger les sols. Donc c'est une vertu. Et il faut vraiment voir ça comme un système alimentaire plutôt que de l'enchaînement de cultures sur une même surface. La deuxième chose qui me semble aussi importante, c'est sur la question des politiques publiques. Hein, Melchior, vous disiez, c'est vertigineux. Oui. Non, il faut surtout pas inquiéter il faut pas inquiéter outre mesure les auditeurs. C'est possible de changer le système, mais c'est surtout à la portée de chacun, y compris nous en tant que consommateurs, comme le disait Laurine, mais aussi au niveau des politiques publiques. Et j'insisterai sur ce volet des politiques publiques c'est-à-dire qu'on peut pas culpabiliser le consommateur, mais pour autant, le consommateur, quand il est bien informé, l'exemple de C'est qui le patron le montre bien, on informe un consommateur, on lui demande de choisir entre un lait qui rémunère, un lait qui fait ci, un lait qui fait ça, et le prix. Au final, on a un produit de consommation qui est relativement respectueux de l'environnement, qui répond aux enjeux de revenus des producteurs, et qui permet aux consommateurs de s'engager dans des trajectoires aussi de consommation vertueuse. Mais j'insiste sur les politiques publiques. À Farm, on a lancé un observatoire sur les soutiens publics à la l'agriculture. On ne peut pas mettre en concurrence des agricultures, notamment du Nord et du Sud, quand on voit que des milliards de dollars sont dépensés pour accompagner l'agriculture européenne, et c'est important, mais il faut réorienter ces soutiens publics vers des pratiques qui soient orientées vers l'agroécologie et la transition de ces agricultures. Et pareil, vous n'irez pas discuter avec un agriculteur qui vous dira « moi j'aime bien mettre des pesticides dans mon champ ». Non, ils veulent tous avoir des solutions techniques, économiques qui leur permettent d'avoir une empreinte qui soit moindre sur l'environnement. Pour autant, on est dans des situations de déséquilibre et d'inégalité. Hein. Juste pour finir, ouais. Les pays du Sud, c'est 14 fois moins de soutien pour les agriculteurs. Donc là, on est dans un vrai problème de compétitivité.
C'est à qui de mettre en place ces politiques publiques pour favoriser cette souveraineté alimentaire ou en tout cas cette alimentation saine et équilibrée? Est-ce que c'est à la France, c'est à l'Europe? Est-ce qu'il faudrait renforcer aussi peut-être une coopération internationale pour tendre vers ça, Laurine Azoulay? Ou c'est un peu tout ça?
C'est à tous les niveaux, en fait, ouais. Que ça se réfléchit, au niveau français, au niveau européen. À l'échelle internationale, vous avez un organe de l'ONU qui s'appelle le Comité pour la sécurité alimentaire, qui traite aussi de ces questions-là. Et comme Mathieu vient de le dire, je pense que c'est vraiment important d'arriver à redéfinir, en fait, quels sont les systèmes alimentaires qui seront les moins violents en termes d'impact sur l'environnement, en termes d'impact sur les agriculteurs, en termes d'impact sur les consommateurs. Il y a une espèce de polarisation qui s'est faite dans le débat actuel entre le revenu agricole et les prix de l'alimentation, comme si... Et bon, on peut rajouter même un troisième pilier qui est le pilier environnemental, comme s'il fallait choisir en fait entre ces trois éléments. Mais en fait, il ne faut pas choisir entre ces trois éléments. Il faut construire le modèle politique qui permette de résoudre cette équation à trois dimensions. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Mathieu. En fait, les mécanismes politiques aujourd'hui, ils existent. On n'est pas dans une impasse ni technique ni agronomique en matière de transition agroécologique, ni une impasse en termes de mécanismes politique qu'on chercherait encore. Il existe aujourd'hui une multitude de mécanismes politiques qui permettent de réguler, qui permettent de répartir la valeur de façon plus juste entre le producteur, les organes intermédiaires et le consommateur. Et ces mécanismes-là, pour les mettre en place, par contre, effectivement, ça demande une volonté politique à tous les niveaux. Et cette volonté politique-là, pour qu'on arrive à la mettre en place, il faut que la société civile, que les producteurs et que les citoyens puissent tous ensemble peser d'une même voix. Il faut aussi qu'on réinterroge la gouvernance de nos systèmes alimentaires à tous les échelons. Quand vous avez certains acteurs économiques qui finalement accaparent une immense partie de la valeur de l'alimentation et ont un pouvoir d'influence qui est écrasant auprès de ces politiques publiques-là, mais voilà, ça interroge. Et donc ça veut dire aussi repenser, re-questionner la place des différents acteurs dans l'élaboration des processus politiques.
Alors pour ne pas rester justement sur un tableau un peu sombre, et j'espère qu'on a quand même trouvé quelques bonnes piste, mais Pierre Duclos, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, pour réussir cette souveraineté alimentaire ou pour donner espoir quand même?
Je crois que ce que vient de dire Laurine est important en matière de politique. La seule petite problématique qui subsiste, c'est que on peut réguler sur le plan français, éventuellement sur le plan européen, mais quand on voit que nous sommes sur des marchés ouverts et nous voyons l'influence des flux qui viennent d'Ukraine, de Russie, du Brésil, d'Amérique du Nord, eh bien, il faudrait qu'il y ait une dimension supranationale à cette politique. Donc, qui est capable de mener à bien cette dimension supranationale pour conduire une politique rééquilibrante de tous les facteurs que nous venons d'évoquer? Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et je crois que il faudrait saisir peut-être des organisations, la FAO, l'ONU, pour prendre en main cette typologie de problématique politique de manière à permettre d'accéder à une solution tangible. Sinon, on est complètement dépendant de flux ouverts sur lesquels personne ne peut avoir la main, si on peut dire.
Mathieu Brun.
Écoutez, moi je vois plein d'initiatives positives. Je pense qu'on a aussi des quantités d'études, de stratégies qui existent. J'ai parlé de C'est qui le patron, par exemple. On pourrait voir aussi des politiques publiques au Sénégal, son développement de la filière poulet. Laurine parlait des exportations européennes qui ont détruit des filières entières. Bon, pendant quelques années, le Sénégal a remis le paquet sur ce sujet-là. Ils ont développé des filières, mais par exemple, ils n'avaient pas d'alimentation animale pour nourrir les poulets. Donc, ils étaient dépendants de l'extérieur, notamment de la situation situation en Ukraine. Donc il faut avoir une vision systémique qui engage tous les acteurs. On a la France, on a la chance d'avoir en France des instituts de recherche, des filières, des organisations représentatives de l'agriculture, des industriels, etc. Donc on peut créer cette marche commune avec un fort volontarisme, mais je crois que ça passera aussi par l'Union européenne et la définition de politiques qui soient non seulement agricoles, mais aussi alimentaires. On va trop souvent vers la fourche et pas assez vers la fourchette, je pense, pour bien comprendre les impacts positifs que peut avoir le Green Deal, qui n'est pas du tout, comme certains le prévoient, comme le décrivent, comme juste un outil de réduction des rendements ou de la production européenne. C'est un outil de réajustement de notre système alimentaire, mais encore faut-il que ce soit possible de le faire.
Laurine Azoulay, l'Europe a un vrai rôle à jouer dans tout ça, toute cette question.
Ah bah, l'Europe a un rôle extrêmement important à jouer. Faut rappeler que le plus gros budget de l'Europe, c'est la PAC, la politique agricole commune, et qu'aujourd'hui la PAC, dans sa construction, finance, subventionne de façon indirecte des produits qui sont ensuite destinés à l'export. Donc Mathieu en parlait tout à l'heure, il y a vraiment une concurrence déloyale qui est aussi exercée par les pays européens envers les pays du Sud. Moi, je dirais même au-delà de penser à la fourchette, il faut partir en fait de la fourchette et des besoins alimentaires. C'est ça qui doit conditionner le modèle agricole qui est derrière. Et pensez aussi qu'au niveau international, on a l'OMC, donc l'Organisation Mondiale du Commerce, qui détermine les règles des échanges agricoles, qui est aujourd'hui au point mort, qui est bloqué. Mais voilà, on pourrait repenser comment faire évoluer ces règles-là et surtout comment considérer l'alimentation et l'agriculture comme des produits qui ne sont pas des marchandises comme les autres, qui sont beaucoup trop importantes en fait pour respecter les règles habituelles du commerce.
Et on n'a pas fini d'en parler, hein, sur un sujet aussi dense, mais c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir été avec nous. Mathieu Brun, merci de nous avoir rejoint, directeur scientifique de la Fondation Farm. C'est la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Merci Pierre Duclos également, président d'AgriTrade Consulting, analyste et spécialiste du marché international des céréales. Et puis merci à vous Laurine Azoulay, ingénieure agronome, spécialiste des systèmes alimentaires durables et chargée de plaidoyer souveraineté alimentaire au CCFD Terre Solidaire. Dans un instant, on vous propose un petit voyage à Madagascar. À tout de suite.